Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 15 septembre 2023, 24 Shahrivar 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez à l'écoute. Une cellule terroriste planifiant d'inciter aux émeutes et au sabotage démantelée dans le nord d'Iran. Téhéran condamne la décision du trio européen de maintenir les sanctions en violation du PGAC et le Hamas appelle les Palestiniens à protéger la mosquée Al-Aqsa contre les agressions israéliennes. C'était les principaux titres de l'actualité, en voici les détails. Les services de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, ont démantelé une cellule de 25 membres qui planifiait de commettre des actes de sabotage et des opérations terroristes dans la province de Gilan, dans le nord du pays. Le Bureau des relations publiques de la Force Quds à Gilan a annoncé jeudi dans un communiqué que les 25 membres de cette cellule terroriste avaient été arrêtés. Le communiqué a ajouté que les éléments de cette cellule envisageaient d'inciter à des émeutes et à des sabotages contre les lieux et les quartiers généraux importants et sensibles, mais que leur réseau avait été complètement démantelé par les services de renseignement du Corps des gardiens de la Révolution islamique. On vous lisait aussi en titre, la France, l'Angleterre et l'Allemagne prolongent les sanctions contre l'Iran, et ce dernier proteste contre la nouvelle violation par l'Europe de ses obligations dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, PGAC ou JCPOA, selon l'acronyme anglais. L'Iran a dénoncé la décision de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne de maintenir leurs sanctions imposées au programme nucléaire et de missiles balistiques de la République islamique, et ce en violation de l'accord signé en 2015 sur le nucléaire. Les sanctions devaient expirer le mois prochain en vertu de l'accord, officiellement connu sous le nom de Plan global d'action conjoint. Le trio européen, qui fait partie de l'accord nucléaire, a toutefois annoncé jeudi son intention de maintenir les interdictions au-delà de la date limite. Réagissant à cette décision, peu de temps après, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il la considérait comme une mesure illégale et contraire aux engagements du trio dans le cadre de l'accord et de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a approuvé cet accord. Cette décision constitue une mesure de tension prise de mauvaise foi, peut-on lire dans le communiqué, et les pays européens avaient invoqué trois raisons pour expliquer leur décision, notamment leur allégation selon laquelle l'Iran aurait transféré des drones à la Russie engagés dans une guerre contre l'Ukraine, ainsi que ce qu'ils appellent la probabilité selon laquelle Téhéran fournirait des missiles balistiques à Moscou. La République islamique d'Iran a catégoriquement rejeté ces deux allégations, citant son rejet catégorique de la guerre en Ukraine. Les trois pays européens ont également accusé l'Iran de violer le PGAC, faisant référence à un certain nombre de contre-mesures nucléaires légales que la République islamique a commencé à prendre après que les États-Unis ont quitté illégalement l'accord en 2018 et que les trois États européens n'ont adopté aucune mesure efficace pour compenser le retrait américain. Profanation de la mosquée Al-Aqsa par les colons, et voici que le Hamas appelle les Palestiniens à protéger ce lieu saint. Le porte-parole du mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, siégé dans la Noble Gosse, a lancé une mise en garde contre la profanation de la mosquée Al-Aqsa par les colons israéliens pendant des fêtes juives. Le porte-parole du Hamas, Mohamed Hamadeh, a appelé les Palestiniens habitant en Cisjordanie, à Noble Gods et partout dans les territoires occupés de la Palestine à multiplier les rassemblements dans la mosquée Al-Aqsa au cours de la période à venir afin de protéger cette dernière face à l'agression des colons. Hamadeh a mis en garde contre le danger d'une agression de l'occupation contre la mosquée Al-Aqsa, en particulier avec les fêtes juives qui commence samedi prochain, au cours desquels les groupes de colons se mobilisent pour des incursions et des violations généralisées. Le régime usurpateur laisse libre cours aux colons extrémistes pour faire des ravages à Gods et à Al-Aqsa en pratiquant des rituels talmudiques, a-t-il dénoncé. Et de poursuivre, le régime occupant déclare une guerre de religion et ne veut pas qu'il reste quoi que ce soit de palestinien à Qods, qu'il s'agisse d'une mosquée ou d'une église. Et ce, alors qu'il continue ses agressions contre Qods et des femmes libres. Il a ajouté que personne ne peut permettre que l'agression du régime usurpateur et des colons contre Qods et Al-Aqsa reste sans réponse, soulignant que notre peuple ne laissera pas tomber la mosquée Al-Aqsa. Il veillera à ce qu'il s'y passera et fournira une réponse à toute agression. Suite de l'actualité avec l'actualité du Yémen. L'Arabie saoudite a annoncé avoir invité une délégation du mouvement d'Ansar Allah à se rendre dans la capitale Riyad pour négocier un cessez-le-feu global et l'établissement d'une paix équitable. L'Arabie saoudite a déclaré avoir invité une délégation d'Ansar Allah au Yémen à se rendre à Riyad dans le but de finaliser les négociations concernant le rétablissement d'un cessez-le-feu global au Yémen et de trouver une solution politique au conflit dans le pays. Le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a annoncé dans un communiqué publié sur le réseau social X, anciennement nommé Twitter, Dixit, en termes de l'initiative saoudienne présentée en mars 2021 et dans le cadre des négociations menées par la délégation dirigée par Mohamed Ali Jaber, l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Yémen, avec des parties amies au sultanat d'Oman, Riyad a invité la délégation de Sanaa à se rendre en Arabie saoudite afin de poursuivre les pourparlers de paix. Jeudi 14 septembre à midi, des sources d'information ont fait part de l'arrivée d'une délégation de médiation omanaise à Sanaa, accompagnée du négociateur en chef du gouvernement de Salut national du Yémen, Mohamed Abdesalam, juste 2 jours après la visite inattendue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman à Mascate. L'actualité est aussi la France. Le président français Emmanuel Macron a défendu vendredi un devoir de solidarité européenne avec l'Italie face à l'afflux de migrants à Lampedusa, annonçant qu'un travail était en cours entre les deux gouvernements et que des décisions seront prises. La situation à Lampedusa montre que les approches strictement nationalistes on leur limite à estimer en marge d'un déplacement dans le centre-est de la France le chef de l'État français qui ne veut pas laisser seule l'Italie avec ce qu'elle vit aujourd'hui. L'afflux de migrants à Lampedusa a un peu diminué vendredi et les autorités italiennes transfèrent vers la Sicile et le continent des milliers de personnes arrivées cette semaine par la mer sur cette île de la Méditerranée proche des côtes nord africaine située à moins de 150 km du littoral tunisien. Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui franchissent la Méditerranée en espérant gagner l'Europe chaque année pendant l'été. Ils sont des dizaines de milliers à prendre la mer sur des embarcations souvent vétustes pour tenter cette traversée périlleuse dans laquelle plus de 2000 d'entre eux ont déjà trouvé la mort depuis janvier. La situation n'a cependant jamais été aussi tendue à Lampedusa, où 10 000 personnes sont arrivées entre lundi et mercredi, selon le ministère italien de l'Intérieur, soit plus que la population de l'île, saturant le centre d'accueil géré par la Croix-Rouge et dont la capacité est de 400 places. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Connu pour ses abus sur les enfants prisonniers, l'Australie sanctionne Presse TV, analyse de Sayed Zafar Mehdi. Des lois draconiennes interdisant le droit de manifester pacifiquement, abus à la Guantanamo contre les enfants prisonniers, discrimination contre les peuples des Premières Nations, abus horribles envers les demandeurs d'asile. Et pourtant, l'Australie a l'audace de mépriser le bilan de l'Iran en matière de droits de l'homme et d'imposer des sanctions financières et des interdictions de voyager à des individus et à des entités sous couvert des droits humains. Mardi, le gouvernement australien d'Anthony Albanese a imposé des sanctions financières ciblées et des interdictions de voyage à 4 individus et 3 entités iraniennes, les accusant d'oppression du peuple iranien, notamment des femmes et des filles. L'Australie a déjà imposé 3 séries de sanctions contre l'Iran depuis décembre 2022, mais c'est la première fois que ce pays impose des sanctions financières ciblées et des interdictions de voyager dans le cadre de ce que l'on appelle le cadre de sanctions autonomes contre l'Iran. Dans le cadre du nouveau programme, les personnes désignées figurent un porte-parole des forces de l'ordre iranienne, la cyberpolice iranienne et la presse TV, le principal réseau médiatique international de la République islamique. Presse TV n'est pas étrangère aux sanctions et autres mesures sévères visant à museler la liberté d'expression et la liberté des médias. Le réseau et ses responsables ont fait face à une tempête aux sanctions depuis l'année dernière sous divers prétextes infondés. En novembre 2022, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a imposé des sanctions au réseau et à son organisation mère, l'IRIP, sous le prétexte sans fondement des aveux forcés de détenus iraniens à double nationalité. Le même mois, l'Union européenne a également emboîté le pas de manière assez hystérique aux États-Unis et a imposé une série de sanctions contre des individus et des entités iraniennes, dont Presse TV, avec la même ruse odieuse, soit les aveux forcés des détenus. En décembre de l'année dernière, l'opérateur de satellite européen Eutelsat a également appelé les chaînes de télévision à cesser de diffuser Presse TV en raison de prétendus aveux forcés. Tout cela s'est produit au milieu d'émeutes meurtrières en Iran organisées par les régimes occidentaux et leurs agences hyperactives à la suite de la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, alors qu'elle était en garde à vue, de cause entièrement naturelle, comme l'attestent les rapports médicaux et médico-légaux. Des émeutiers armés se sont déchaînés dans différentes villes iraniennes, matraquant à mort de jeunes bassidjis et détruisant des biens publics. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés par la police et traduits devant les tribunaux, où ils ont avoué leurs crimes, qui ont également été enregistrés par les caméras de surveillance. Certaines audiences du tribunal ont été retransmises en direct à la télévision d'État, au cours desquelles les coupables ont raconté en détail leurs crimes et exprimé leurs regrets. Les verdicts à leur encontre ont été annoncés après des procédures judiciaires régulières et de multiples appels. C'est ainsi que fonctionnent les processus juridiques. Personne n'est au-dessus de la loi et l'état de droit est sacro-saint. Mais dans le cas de l'Iran, les régimes occidentaux et les soi-disant organismes de surveillance des droits de l'homme qu'ils financent poussent des cris chaque fois qu'un émeutier est traîné devant les tribunaux et tenu pour responsable de ses crimes. Sanctionner une organisation médiatique montre à quel point elle peut s'abaisser dans sa guerre hybride sans limite contre un pays qui a refusé de se soumettre aux agendas hégémoniques occidentaux. Presse TV, qui a annoncé son arrivée il y a environ 16 ans comme contrepoids aux médias de propagande occidentaux pour démolir leurs récits erronés et leur couverture manifestement injuste de l'Iran et de la région, a dans une large mesure réussi. Presse TV a fait face à une série de sanctions. Elle a été retirée de ses satellites. Ses pages de réseaux sociaux ont été suspendues ou supprimées. Ses domaines web ont été saisis et ses responsables ont été frappés de sanctions financières et d'interdictions de voyager. Aujourd'hui, l'Australie a également rejoint cette ligue notoire. Or, il y a à peine quelques mois, on a appris qu'un garçon autochtone australien de 16 ans avait passé 45 jours en isolement pour des délits insignifiants. En avril, une nouvelle étude accablante réalisée par le service des immigrations du Royal Children's Hospital de Melbourne a révélé que des enfants détenus dans les centres de détention pour immigrants australiens au cours de la dernière décennie présentaient des taux alarmants de problèmes de santé mentale. En novembre de l'année dernière, l'ONU a fustigé le gouvernement australien pour son manque de coopération et sa violation flagrante de ses obligations en matière de droits de l'homme après qu'une équipe d'inspecteurs de l'ONU a dû annuler la visite des centres de détention où des abus et des décès d'aborigènes avaient déjà été signalés.
Bonjour à tous, bienvenue ici sur les plateaux de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Le nouveau numéro du débat que je vous propose aujourd'hui étant sur donc le sommet G20 avec notamment comme invité très spécial l'Union africaine, c'est le sujet du débat d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord, comme le veut notre format, un reportage qui résumera un peu la situation de ce sommet pour par la suite en débattre avec nos deux invités que nous avons choisis pour vous aujourd'hui. Tout de suite, je vous propose notre reportage.
Le ministre Sergueï Lavrov a répondu à la presse à l'issue du sommet du G20, livrant ses impressions sur une déclaration plus équilibrée et sur la volonté des pays du Sud à ne pas se laisser dicter leur conduite par l'Occident. La présidence indienne du G20 a consolidé les relations avec les pays du Sud, a salué Sergueï Lavrov le 10 septembre lors d'une conférence de presse, soulignant que nos amis indiens avaient travaillé avec honneur. Le diplomate russe a fait valoir que plusieurs pays membres œuvraient à la défense de leurs intérêts, permettant ainsi d'éviter que les pays occidentaux ukrainisent tout le débat aux dépens des pays émergents. Le ministre russe des Affaires étrangères a ensuite estimé qu'un mouvement de l'avant pouvait être observé au G20, remettant en cause l'hégémonie occidentale. La teneur de cette année était la consolidation des pays du Sud, a-t-il estimé, ajoutant que ces derniers avaient une bonne compréhension de ce qui se passe en Ukraine. Lavrov a déclaré que les pays du Sud avaient une bonne compréhension de ce qui se passe en Ukraine. Aussi a-t-il rapporté que le document, fruit d'un compromis, avait été rédigé après 200 heures de négociations. 90% a été validé avant le sommet, a-t-il ajouté. Les Sherpas ont été enfermés dans une pièce comme pour l'élection du pape. A-t-il de surcroît plaisanté, Kiev a fait part le 9 septembre de sa déception face au texte. L'Ukraine est reconnaissante envers les partenaires qui ont essayé d'inclure une formulation forte dans le texte. En même temps, en ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G20 n'a pas de quoi être fié, a déclaré un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Alors tout de suite, d'abord, la venue de notre premier invité, M. Bernard Cornu, analyste politique, également auteur de plusieurs articles. Bonjour M. Cornu, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous.
Alors, Monsieur Cornu, commençons donc tout de suite donc concernant ce sommet du G20. Ça s'est conclu, donc c'est la fin du G20. Et finalement, cette volonté, comme dit leur propagande, d'avoir un monde uni, d'avoir un monde frère, ça fait quand même à demi-teinte. Parce que finalement, même s'il y a eu cette réunion et qu'il n'y a pas eu officiellement de désaccord, il y a beaucoup de dossiers encore qui non résolus au niveau des pays internationaux ne sont pas forcément d'accord entre eux, des conclusions sur certains dossiers, M. Cornu.
Oui, tout à fait. Les grands problèmes graves de l'humanité, les problèmes entre les nations, les problèmes vis-à-vis des peuples sans État, ils ont été mis sous le tapis, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été abordés, au moins en tout cas, pendant la déclaration finale, qui est très longue et qui a cherché à être consensuelle, à être adoptée par tout le monde. Comme d'ailleurs dans les rapports finaux de synthèse du GIEC, tous les vrais problèmes qui sont parfois connus des spécialistes ne sont pas vraiment abordés. Voilà, donc, on n'a pas le problème de l'occupation de la Palestine, on n'a pas abordé le problème de la suprématie du dollar et de l'abus du droit du dollar, enfin des États-Unis, dès qu'on utilise le dollar. Et je constate d'ailleurs que le dollar est la seule monnaie qui est évoquée dans tous les 30 pages ou les 83 paragraphes de la déclaration. Donc tant que ceci n'est pas remis en cause, cette domination du dollar, cet abus de pouvoir du dollar, les choses ne vont pas changer, les injustices. D'ailleurs, le mot « justice internationale » n'est pas du tout évoqué. On évoque parfois le droit international, mais on n'évoque pas les modalités d'application du droit international. Et aussi, on n'a pas défini le terrorisme, et il est évoqué, les moyens de lutte contre le financement occulte du terrorisme sont évoqués. Mais comme le terrorisme lui-même n'est pas défini, on n'a pas encore de solution pour mettre fin au terrorisme d'État.
Merci, M. Cornu. C'est vrai que les mots comme terrorisme, d'un point de vue de la narration, en fait, est très, très différent d'un pays à l'autre. En Europe, ça sera plus utilisé dans le commun des mortels, en fait, comme un acte violent, quelle que soit la justice qu'il y a derrière. Donc, par exemple, les Palestiniens, malheureusement, sont associés à des terroristes. Les Palestiniens qui essayent tout simplement de faire sortir leurs occupants. Il y a aussi un autre sujet qui n'a pas réussi à être abordé, alors que l'Europe, l'Occident le voulait. C'était la question ukrainienne. Les Indiens ne sont pas laissés faire. On sait que les Indiens, depuis le début, ne sont pas d'accord avec la version européenne occidentale de la guerre entre l'Ukraine, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et finalement, à la fin du G20, l'Inde est restée sur sa position.
Oui, tout à fait. Enfin, la guerre en Ukraine est évoquée, même d'ailleurs assez tôt dans la déclaration, mais sans condamnation d'une partie ou de l'autre, donc sans évoquer, disons, les origines telles qu'elles peuvent être vues par la Russie et telles qu'elles sont vues par l'Ukraine et par les pays occidentaux, par l'OTAN. Donc les détails des raisons de cette guerre ne sont pas du tout évoqués. Ah,
ça va plus loin, hein, parce que plusieurs pays à l'heure actuelle disent que non seulement le sujet réel du conflit ukrainien et russe n'est pas admis, mais ils confortent l'argumentaire russe en disant si les Européens et les Occidentaux arrêtaient de donner des armes à l'Ukraine, le conflit serait déjà arrêté, on serait déjà à la table de négociation. C'est vers ça, plutôt que les pays internationaux vont en disant « Ok, si ce conflit ne nous regarde pas », il s'avère que la diplomatie est la seule solution. Ils reprochent aux Occidentaux, en fait, d'aller alimenter cette guerre.
Oui, c'est ça, c'est toujours dans les discussions de chaque pays ou dans les discussions orales, mais dans la déclaration, le soutien n'est pas vraiment évoqué. Le soutien des pays occidentaux à la guerre n'est pas vraiment évoqué. Donc on évoque surtout les conséquences dramatiques pour les populations civiles, qui sont d'ailleurs les actions militaires contre les populations civiles sont condamnées dans d'autres paragraphes de la déclaration, mais sur la guerre elle-même en Ukraine, les choses ne sont pas très précises.
Merci.
Pour éviter justement d'afficher les divergences entre les différents membres du G20.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, notre deuxième invitant étant Monsieur Luc Michel, analyste politique, notamment concernant l'Afrique. Bonjour, Monsieur Luc Michel. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Je suis aussi ravi. Bonjour et bonjour à Monsieur Cornu.
Alors, Monsieur Luc Michel, on parlait donc du G20. On peut expliquer que la situation n'était pas une seule même famille, comme le veut l'argumentaire du G20. La conclusion s'est faite avec un discours en demi-teinte. Il y a aussi un autre fond qu'on a pu sentir au G20. C'est l'Inde qui change de nom en plein G20, c'est-à-dire en plein début des G20. C'est annoncé, non pas avant, non pas après, mais en plein G20, où il a indiqué que l'Inde ne voudrait plus s'appeler l'Inde, mais voudrait s'appeler Bharat, qui en fait l'explication, l'argumentaire est indiquant que l'Inde étant un nom colonial. Alors c'est un message fort hein, pour les autres pays dominés, qui ont été dominés par la colonisation. Vous-même, Luc Michel, très intéressé, analyse politique concernant l'Afrique, qu'en pensez-vous?
Mais on est tout à fait devant la fin du monde néocolonial. La division du monde en division néocoloniale est terminée, évidemment. L'Inde prend une position fortement symbolique.
Alors, Monsieur Cornu, pour revenir à ce que vous disiez, les propos que vous disiez concernant donc le dossier russe. Donc, non seulement l'Inde se montre comme étant inquisiteur concernant les Occidentaux face au dossier ukrainien, mais en plus l'Inde va plus loin en disant nous voulons complètement fermer le dossier colonial en changeant complètement de nom. Alors, ça montre bien qu'il explique que le monde doit faire avec les autres pays que les pays occidentaux. Qu'en pensez-vous de ce genre d'analyse?
Évidemment, l'Inde, colonisée par les Anglais il y a plus de 3 siècles, très dominée pendant très longtemps jusqu'à l'indépendance, après la Deuxième Guerre mondiale, après la longue lutte pacifique de Gandhi et d'autres pour obtenir l'évacuation des troupes britanniques, enfin de l'Empire britannique. C'est vrai que c'est la démarche est symbolique et face pour un pays qui a été la plus grande colonie du monde et qui a été la source de richesses considérables de l'Empire britannique et qui a fait que, d'ailleurs, l'Empire britannique a voulu récupérer des Français le canal de Suez pour protéger les routes commerciales de cet empire qui était sa source principale de richesses. Et même pour la Première Guerre mondiale, le motif protéger cette route maritime était très important comme une raison des Britanniques, de l'Empire britannique d'entrer en guerre aux côtés de la France et de la Russie. Donc cette décision symbolique de l'Inde de changer de nom, de reprendre un nom, disons, local, ancien, est une manière de dire que le colonialisme des empires européens et américains et sans doute aussi en partie de l'empire russe, tsariste, est une des sources des déséquilibres actuels, de la pauvreté ou du retard de certains pays, et qui doit être compensé de la même façon que pour dans la dernière COP en Égypte, on a posé le principe de créer un fonds pour compenser les dégâts et les préjudices des actions climatiques, des conséquences, disons, des abus de consommation, d'énergie et d'autres, de pollution, des pays occidentaux depuis des centaines d'années.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, Monsieur Luc Michel, qu'est-ce que vous pensez donc de ce sommet du G20? Est-ce qu'un message ou est-ce qu'un dossier ou quelque chose d'intéressant pour finalement le monde entier a pu en sortir? Sachant quand même qu'on est en pleine inflation pour le monde entier, problème de nourriture, problème d'énergie, il y a quand même pas mal de dossiers extrêmement épineux. Est-ce que finalement le G20 est allé en avant?
Mais l'Occident a pris conscience du fait qu'il avait perdu la guerre en Ukraine. La Russie a gagné militairement. Elle a gagné surtout la guerre économique. Les Saoudiens et les Russes ont pris le contrôle du marché mondial des hydrocarbures que les Américains contrôlaient depuis 2015. Et les Russes maintenant contrôlent également le marché du blé. Ce que l'Occident a pris conscience, c'est qu'il n'allait pas la négocier. Et c'est donc cette position accommodante vis-à-vis de la Russie.
Merci, monsieur Luc Michel. Monsieur Bernard Cornu, on sait, donc je venais d'indiquer pour le sujet de l'énergie, on sait que l'hiver va commencer, la situation énergétique n'a toujours pas été modifiée, ne s'est toujours pas améliorée. Est-ce que et finalement les pays comme l'Inde ou la Chine ou d'autres gros pays ont déjà leurs fournisseurs, ne sont pas finalement impactés par cette crise de l'énergie, contrairement au monde occidental, notamment avec ce qui s'est passé en Afrique avec le Niger qui décide de vendre son uranium plus cher. On ne sait pas encore pour la situation gabonaise, mais ça ne semble pas meilleur. Qu'est-ce que vous avez envie d'en parler quand on voit donc cet Occident face au G20 avec d'autres pays, avec cette invitation de l'Union africaine, mais finalement qui représente qu'une toute petite partie de l'Afrique?
Disons, évidemment, le sujet de la transition énergétique est abordé abondamment dans beaucoup de paragraphes de cette déclaration. On peut noter aussi que cette déclaration dénonce des mesures discriminatoires, des mesures d'empêchement du transit de l'énergie, du commerce de l'énergie. Donc ceci est finalement une position qui rejoint la position russe et qui, celle de l'Inde, de la Chine, de dénoncer les sanctions qui ont été mises à la Russie, mais sans que ce lien soit explicite. Donc le problème, effectivement, c'est ce vœu pieux de dénoncer les mesures discriminatoires, les interdictions ou les limitations au commerce de l'énergie, au transit de l'énergie. Le problème, c'est comment les faire adapter, comment résoudre la contradiction entre cette position de principe, cette déclaration de tous les pays, donc y compris les États-Unis ou l'Angleterre, ou même la France qui applique ces sanctions, et ce principe de liberté totale de la circulation du marché de l'énergie. Donc le problème n'est pas posé. Et donc il reste c'est une contradiction interne non explicitée entre la réalité stratégique, la réalité de cette guerre en Ukraine, de cette position de la Russie et des Occidentaux, de l'OTAN, et l'affirmation de la nécessité d'une liberté du commerce de l'énergie. Alors l'Inde a profité parce que il est bien connu que la Russie a pu vendre beaucoup de quantités de pétrole brut pour qu'il soit transformé en carburant par l'Inde, qui a des capacités de raffinerie importantes et qui a pu revendre les produits raffinés assez massivement aux pays qui en avaient besoin, donc à des tarifs sans doute inférieurs aux cours mondiaux tels qu'ils peuvent être définis normalement à Rotterdam pour les carburants.
Monsieur Luc Michel, vous qui suivez beaucoup, donc, à cause du sujet africain, les anciens pays coloniaux, est-ce que vous pensez que le front Chine-Russie et Inde s'est fait ressentir? On n'oublie pas, font partie des BRICS. Ils ont fait l'élan des BRICS. Est-ce que on a ressenti, en fait, cet élan de ces trois pays dans ce G20?
Oui, en même temps, on est face à une tentative de contre-offensive de l'Occident. Lorsque l'Occident fait des réunions africaines, au G20, c'est un piège pour les Africains, mais il s'agit de les lier à l'économie occidentale. C'est cela qu'il faut constater. C'est que les Européens et les Américains ne quitteront pas pacifiquement l'Afrique. On se prépare à une décennie de combat pour le contrôle de celle-ci.
Merci, monsieur Luc Michel. Monsieur Cornu, vous êtes d'accord avec les propos de Luc Michel? Vous êtes d'accord sur, quand je pose la question, on a pu se ressentir un front entre la Chine, la Russie et l'Inde, tous trois faisant partie des BRICS, même l'élan lancé. Est-ce que vous êtes d'accord au fait que ça s'est ressenti durant le G20?
Oui, je pense que quand on voit la déclaration précisément, on voit bien que, disons, les tenants de l'Occident, disons les États-Unis, l'Angleterre, la France et quelques autres pays, l'Italie, n'ont pas pu imposer ce qu'ils auraient voulu imposer. En revanche, on voit par exemple dans un exemple, quand il y a une condamnation de la force de la guerre, disons, pour conquérir des territoires, c'est le mot « État » qui est prononcé, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, l'État israélien pourrait argumenter que la condamnation ne parle pas de territoire palestinien, puisqu'ils vont dire qu'il n'y a pas encore d'État palestinien pour les Israéliens, et donc il ne peut pas être condamné. Donc il y a des problèmes très précis de vocabulaire J'ai déjà cité ce problème de définition du terrorisme. Moi, j'ai des journaux turcs dans lesquels, en première page, il y a marqué « Israël, État terroriste ». Beaucoup de gens dans le monde le disent. Moi-même, je dis que les dirigeants américains, les dirigeants anglais du temps de Cameron et même certains dirigeants français, le sieur Sarkozy, doivent être condamnés pour terrorisme d'État, pour des violations flagrantes, des manipulations de l'opinion envers des États qui ont été détruits, fragilisés, agressés. Et ceci, c'est pour ça que dans la devise même de la conférence, qui est sympathique, c'est une seule planète, une seule famille, un même avenir. Il n'y a pas le mot justice. Bon, pour moi, l'essentiel est d'avoir la même justice pour l'ensemble de la planète. Et c'est ça qu'il faut faire, à mon avis, avoir une application du droit international qui soit universelle.
Oui, mais est-ce que, dans ce cas-là, vu que c'était l'un de l'autre, est-ce que ce n'est pas donc un message pour dire qu'il n'est pas envisageable pour l'instant d'imposer ou de mettre la justice, puisque les États entre eux ne sont même pas d'accord sur la manière de percevoir l'importance d'un peuple sur l'autre ?
Les États ne sont évidemment pas d'accord, hein, mais disons les discussions progressent, ou surtout le rééquilibrage des pouvoirs, comme vient de le dire mon collègue depuis la Belgique, est en train de se faire. Donc l'Occident n'a maintenant plus le monopole du pouvoir, le monopole de la vérité, le monopole de la communication. Bien des pays maintenant du Sud global ont des moyens satellitaires de communication, commencent à avoir des agences de presse importantes, comme l'agence, par exemple, de presse Anadolu en Turquie. Je ne la félicite pas pour tout ce qu'elle fait, mais elle existe et elle permet de répondre aux manipulations de l'opinion telles qu'on les a vues dans les périodes préparatoires à la guerre de 2003 envers l'Irak ou d'autres guerres envers la Libye. Donc ce rééquilibrage des pouvoirs de communication, des pouvoirs financiers, des pouvoirs humains, des pouvoirs scientifiques, des capacités scientifiques est en cours. Et comme l'a dit mon collègue, il est clair maintenant que l'Occident a perdu son hégémonie principale.
Et qu'est-ce que vous pensez que veut en faire les autres peuples, c'est-à-dire ceux qui ont été toujours mis en bas de la société au niveau du monde, au niveau international, qui là, avec ce regain en fait de révolution qui est à l'heure actuelle, notamment sur le continent africain, mais également d'autres actes forts comme l'Inde qui essaie de reprendre son nom passé, est-ce que cet élan va perdurer dans le temps? Est-ce que dès que la crise avec l'Ukraine va s'estomper et que les taxes vont être payées, c'est-à-dire les impôts, les dettes que l'Europe doit du fait de cette guerre, mais également avant, est-ce que vous pensez que c'est une chose que les États vont pouvoir garder?
Ben, disons, ces actes symboliques de non, ils vont perdurer. Et je pense que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur cette adoption prochaine d'un nouveau nom pour l'Inde, mais il y a quelques décennies déjà, le président Sankara avait changé le nom pour appeler son pays Burkina Faso, donc renoncer à des dénominations anciennes de l'époque coloniale. Donc les Palestiniens disent notre capitale sera Al-Quds et ils évitent de dire Jérusalem. Quand ils parlent de la ville, ce qu'on appelle Hébron dans la presse occidentale, ils disent Al-Khalil. Donc tous ces gestes symboliques font progresser la conscience internationale. C'est déjà très lent, ça devrait aller plus vite. Et il faudra qu'il y ait des relais de communication beaucoup plus forts pour montrer aux gens, disons, de cette perception du monde. Au lieu d'être dans leur téléphone portable et de regarder des choses sans importance, mineures, il faut que les gens s'intéressent à la situation du monde, à la résolution des conflits, et voient que seule l'émergence d'une justice internationale, d'une police internationale, est la clé pour résoudre définitivement ou le plus rapidement possible, les conflits en cours.
Merci, Monsieur Cornu. Je remercie à nos deux invités, donc je rappelle Monsieur Bernard Cornu et Luc Michel pour leur intervention aujourd'hui à notre sujet du débat, qui concernait donc le sommet G20, dont l'hôte était l'Inde, donc Bharat. Je vous remercie, chers auditeurs, à vous de nous suivre. N'hésitez pas à voir ou à revoir notre programme ou nos programmes sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt. bientôt pour un nouveau sujet du débat ici sur les plateaux de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur le renforcement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Salman bin Abdelaziz Al Saoud, le roi, et Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, ont reçu chacun une lettre de la part du président Ibrahim Raisi, s'inscrivant dans le cadre des efforts pour le développement des relations bilatérales dans divers domaines. Le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Walid Ben Abdel Karim Al-Khariji, a reçu ces deux lettres au nom du ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan, lors d'une réunion avec Ali Reza Enayati, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Riyad, a rapporté l'agence de presse iranienne Fox News jeudi 14 septembre. Le journal saoudien Akaz a également publié cette nouvelle et écrit « Lors de la rencontre entre Al-Khaliji et Enayati, les relations bilatérales entre Téhéran et Riyad et les moyens de les développer conformément aux intérêts communs ont été évoqués. » Le directeur général du département des affaires asiatiques, Mohamed Al-Moutarfi, a assisté à la cérémonie d'accueil du nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran à Riyad. Enayati, qui a officiellement pris ses fonctions d'ambassadeur d'Iran en Arabie Saoudite la semaine dernière, avait précédemment déclaré dans une interview au journal saoudien Shalq al-Awsat, basé à Londres, qu'avant son voyage en Arabie Saoudite, il avait rencontré le président iranien Ibrahim Raisi, qui lui avait demandé de déployer tous ses efforts pour renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et de prendre des mesures pour le développement des relations. Il avait souligné « Nous considérons l'Arabie Saoudite comme un partenaire stratégique d'une grande importance. Ce qui a été réalisé au cours des 6 derniers mois annonce un avenir prometteur et nous sommes fermement déterminés à développer les relations irano-saoudiennes et nous avons ressenti le même sentiment chez nos frères en Arabie Saoudite. » Par ailleurs, l'ambassadeur saoudien à Téhéran a salué le nouveau chapitre des relations irano-saoudiennes tout en affirmant que les relations seront fortes dans tous les domaines. Dans une interview exclusive accordée mardi soir à l'agence de presse officielle iranienne IRNA, Abdullah bin Saoud al-Anzi s'est dit satisfait de l'ouverture d'un tout nouveau chapitre dans les relations entre Riyad et Téhéran. Les liens seront forts dans tous les domaines, y compris dans les secteurs du commerce, de l'économie et de l'investissement, a-t-il indiqué. S'exprimant en marge d'une cérémonie à l'ambassade de Chine à Téhéran à l'occasion du 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, l'ambassadeur saoudien a souligné que la reprise des relations entre les deux pays seront constructives, fortes et fondées sur les intérêts communs, le respect mutuel et le bon voisinage. En mars dernier, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont convenu dans le cadre d'un accord négocié par la Chine de rétablir leurs relations diplomatiques rompues en 2016. Selon une déclaration commune, la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté nationale de leurs pays relatifs et de s'abstenir de s'immiscer dans les affaires intérieures de chacun. Ils ont convenu de mettre en œuvre un accord de coopération en matière de sécurité signé en avril 2001 et un autre accord conclu en mai 1998 pour stimuler la coopération économique, commerciale, d'investissement, technique, scientifique, culturelle, sportive et de jeunesse. L'Iran a officiellement rouvert son ambassade à Riyad en juin, suivi de son consulat à Jeddah et de son bureau de représentation auprès de l'Organisation de la coopération islamique OCI, l'ambassade saoudienne à Téhéran et son consulat à Mashhad ont également repris leurs fonctions. Dans une autre partie de ses déclarations, le diplomate saoudien a salué le rôle constructif de la Chine en tant que médiateur dans la reprise des relations entre les deux pays musulmans. Cet accord se concentre sur une entente au sujet de la promotion d'une coopération bilatérale et constructive dans de nombreux domaines et il s'agit également d'un accord de sécurité commun entre les deux pays qui renforce la coopération de part et d'autre, a-t-il déclaré. L'ambassadeur saoudien à Téhéran a déclaré que cet accord a eu un impact significatif sur de nombreuses questions et que la normalisation des relations a été chaleureusement accueillie par la communauté internationale. Al-Anzi souligne par ailleurs que tout accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran renforcera également la paix et la sécurité dans la région et assurera la prospérité des deux nations. Rappelons que le nouvel ambassadeur d'Arabie saoudite en Iran, Abdallah Ben Saoud Al-Anazia, a rencontré et discuté avec le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, dimanche 10 septembre, au ministère iranien des Affaires étrangères. Lors de cette rencontre, l'ambassadeur saoudien a soumis une copie de ses lettres de créance au ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, cimentant ainsi le rétablissement des liens entre les deux pays après 7 ans de rupture. Le premier ambassadeur d'Arabie saoudite en Iran depuis la reprise des relations diplomatiques est arrivé mardi 5 septembre à Téhéran et a rencontré dimanche 10 septembre le ministre iranien des Affaires étrangères. S'exprimant à son arrivée à Téhéran mardi dernier, Abdallah Ben Saoud Al-Anzi avait déclaré que les directives des dirigeants saoudiens soulignaient la nécessité de renforcer les relations et d'intensifier la communication et les réunions entre le Royaume saoudien et la République islamique d'Iran. Le 10 mars, après plusieurs jours de négociations intensives et animées par la Chine, la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades. Dans une déclaration commune après la signature de l'accord, Téhéran et Riyad ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté nationale des deux pays et de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de part et d'autre. Alors que les États-Unis et l'entité sioniste ne cachent plus leur inquiétude quant à ce rapprochement, la détente a le potentiel d'apaiser les tensions dans une région caractérisée par des turbulences depuis des décennies, selon les experts.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.